Artlist.io.
D'avoir des experts, des entrepreneurs. Moi, c'est travailler avec des entrepreneurs, c'est quelque chose qui me fascine. Donc, je vais faire une brève présentation. Donc, aujourd'hui, le podcast est présenté par la Jeune Chambre de la Mauricie et le service d'accueil aux nouveaux arrivants de Trois-Rivières, le SANA. On tient à remercier aussi le ministère de l'Immigration et de la Francisation et de l'Intégration, donc le MIFI, pour sa contribution financière à la réalisation de ce podcast. Donc, j'aime bien commencer avec une petite question bien simple pour nous mettre dans le bain. Qui vous inspire et pourquoi en tant qu'entrepreneur?
Je commence.
Oui, vas-y.
Pamela?
En tant qu'entrepreneur, là, je sais que ça va sonner super cliché parce qu'il y en a vraiment des beaux entrepreneurs au Québec, je suis consciente. Puis c'est quelqu'un de mainstream, mais Olivier Primeau, je trouve vraiment que comment il bâtit sa business, comment il expand, puis comment il passe au travers des défis. T'sais, on sait qu'avec la COVID, ça n'a pas été évident, puis il est quand même dans l'événementiel. Mm-hmm. Je le suis sur LinkedIn, je vois tous ses projets aussi avec ses prêts à boire, puis là, il vient de rentrer aux États-Unis. Je trouve ça super comme inspirant parce que c'est difficile, je pense, pour les Québécois, des fois, de sortir un peu, de s'expatrier. Fait que je trouve ça super impressionnant. Sinon, hors entrepreneur, des entreprises comme Guru, Loop Mission, ça, c'est des entreprises qui me rejoignent par rapport à leurs valeurs d'entreprise. Fait que,
OK.
C'est vraiment ça qui m'inspire.
Donc, Olivier Primeau, autant au niveau du branding que son cheminement c'est qu'entrepreneur qui t'inspire.
Les décisions qu'il fait, l'aspect marketing, tout ce qui est pensé en arrière, tu sais, Vlog Day, Everyday, puis tout, c'est vraiment c'est des décisions marketing qui sont coûteuses,
oui.
Mais qui, au bout de la ligne, on le voit, ça rapporte. Là, quand on est entrepreneur puis qu'on le pense dans l'autre côté de la médaille, pas nécessairement du côté consommateur, je trouve ça super intéressant. Là.
OK. Ouais. Samy?
Pour moi, c'était définitivement mes anciens chefs, tu sais, que j'ai eus avec qui j'ai côtoyé, j'ai travaillé, que ce soit Marc-Alexandre Mercier ou Samuel Pinard à la salle à manger. Tu sais, ça a été des gens qui ont été très, très inspirants. Quand je travaillais pour eux, je voyais leur réalité, je voyais les défis auxquels ils étaient confrontés, que maintenant, moi, je suis confronté.
Okay.
Puis, ça m'a, ils ont été capables de me transmettre une passion, surtout. Puis, pour ça, je trouve que ça m'a vraiment inspiré pour aller de l'avant puis poursuivre dans ma démarche. T'sais, je me considère un peu moins comme un entrepreneur, dans le sens que moi, je veux dire, c'est mon métier de cuisinier.
Oui.
Je vois d'abord et avant tout que je suis un cuisinier.
Okay.
Puis, à travers ça, tu sais, je vis une passion. Puis, je veux dire, je fais ce que j'aime. C'est pas... des fois, j'ai un peu l'entrepreneuriat, dans le sens que j'ai pas d'inspiration de gens qui ont eu des business ou dans... Moi, je sais pas comment ficeler ça, mais...
C'est plus des personnes qui sont en lien avec ton métier, je pense.
Exactement, oui, absolument.
Tu vis ta passion et au travers de tout ça, tu tombes à être entrepreneur, à avoir l'étiquette à entrepreneur. Oui, c'est ça, à défaut. OK. Donc, c'est vraiment les chefs pour qui tu avais travaillé, que tu as appris,
qui ont été exceptionnels dans mon cheminement.
OK, c'est ton inspiration.
Ouais.
OK. Puis que justement, j'imagine que tu as maintenant des chefs sous toi, que tu es de l'inspiration pour eux aussi probablement.
Oui, exactement, oui.
C'est là,
le flambeau.
Là, vous êtes rendu à combien d'employés à l'auberge?
Ben maintenant, en cuisine, on est 5.
OK.
En totalité, on est environ une quinzaine d'employés, 16 employés.
OK. Puis ça, dans le fond, si je ne m'abuse, c'est du reprenariat. Vous avez racheté l'auberge. Est-ce que c'était de cette même ampleur-là quand vous avez racheté? Est-ce que vous avez construit? Est-ce que vous avez fait grandir ça?
Oui, pas mal. Ça a pas mal doublé l'effectif. Okay. Oui, en même pas 5 mois, en fait.
OK.
Dès notre ouverture, l'effectif a déjà doublé. Déjà en cuisine, la cuisine a grossi. Tout ça, on a mis beaucoup plus l'accent sur ça.
OK. Puis comment on gère ça? De doubler dans le foyer?
C'est ça. C'est une équipe. Hein? On a chacun notre carré de sable. Puis c'est de bien s'entourer quand on part. Pour nous, c'est une force d'être 4.
OK.
T'sais, on a chacun notre domaine. Puis il y a quelqu'un qui va s'occuper de la gestion très bien. Quelqu'un qui va s'occuper du volet auberge et... Donc, c'est construire son équipe pour que chacun ait ses forces puis qu'il pallie aux faiblesses de l'autre.
OK, c'est vraiment la complémentarité qui va solidifier l'entreprise.
Exact.
OK, parfait.
C'est beau.
Puis vous, justement, vous êtes des entreprises qui sont vraiment touché par les tendances, autant des fragrances pour les bougies que justement les saveurs dans l'assiette. Comment vous faites pour rester compétitif? Comment vous faites pour rester à l'affût de ces tendances et changeantes rapides qui s'imposent à vous?
Je vais te laisser commencer, j'ai commencé
dans mon cas, ça se fait quand même relativement de manière très instinctive. J'ai la chance d'être dans un milieu qui est très créatif, qu'on peut laisser aller notre créativité. Puis pour moi, c'est vraiment un vecteur de artistique.
Okay.
Mes plats sont, je pense, pour les personnes qui connaissent l'auberge, qui sont venues manger, on voit qu'il y a une signature un peu visuelle, il y a une signature qui est créative, artistique, surtout, c'est un commentaire qui revient souvent. Donc pour moi, c'est vraiment un vecteur d'expression.
Okay.
Artistique, puis avec le temps, j'ai pu trouver ma signature, puis j'ai pu me distinguer, puis maintenant, avant, j'ouvrais beaucoup les livres, j'essayais d'aller les chercher, de regarder, maintenant, ça se fait quasiment d'une manière très naturelle, mon inspiration, mais mon expression arrive pratiquement comme ça, tu sais, comme si je peignais, ou si je faisais une toile, je sculptais quelque chose, tu sais.
Dans le fond, tu te fais plus imposer une tendance, c'est toi qui impose la tendance avec...
Dans un sens, oui.
OK.
Ouais,
je trouve ça beau, mais moi, je ferais du pouce là-dessus. C'est vraiment que la créativité par rapport... les fragrances, je trouve que c'est un peu le même principe. C'est d'y aller un peu... j'essaie de ne pas sortir des classiques comme vanille, lavande. Tu sais, c'est pas... J'ai rien contre ces fragrances-là. Je trouve que c'est des belles fragrances. Je vais sûrement les sortir un jour pour me standardiser au marché. Mais j'aime sortir quelque chose qui est un petit peu plus créatif, qui sort un petit peu plus du lot. Mais toujours rester dans le naturel quand même parce que je veux pas les fragrances qui sentent super funky ou des choses comme ça.
C'est dans le fond, c'est d'être vrai avec vous, de justement que la passion vienne de vous, puis ça va se transmettre dans vos produits, dans vos repas et tout ça.
Ouais.
Donc, vous, c'est comme ça que vous procédez, vous dites, bon, ben, regarde, oui, il y a une tendance, mais moi, ça ne me parle pas. C'est comme ça mais que vous...
Tu sais, je suis quand même les tendances saisonales, on va dire. C'est que, mettons, là, l'automne arrive en ce moment, puis les fragrances d'automne vont sortir. Fait que, tu sais, c'est sûr que je vais quand même dans les tendances saisonnales, mais j'essaie quand même de sortir du lot un peu... Il y a des choses qui sont classiques comme tarte aux pommes, on s'entend que ça fait très saisonnal automne, mais j'essaie de sortir un peu du lot quand même où, mettons, je vais sortir un qui est café noir. Bien, le café noir, c'est pas quelque chose qu'on voit, quelque chose qui est si fréquent que ça. Ou la collection d'hiver pour l'année passée, j'avais sorti sapin canneberge, sapin, on le voit souvent,
oui.
Mais le mélange de sapin canneberge, c'est un petit peu plus rare, puis ça a été d'ailleurs mon meilleur vendeur de l'hiver.
OK.
Fait que, tu sais, c'est vraiment dans cette optique-là. J'essaie de me démarquer un peu, mais quand même garder les saisons. Là.
OK. C'est dans le fond, t'imposes ta couleur.
C'est ça.
Au bon moment.
Exactement.
c'est pas mal aussi dans l'identité que tu veux créer, puis dans ta vision.
Exact.
Après, nous, on fait que affaire avec les producteurs qui sont autour de nous. Donc, nos produits, tu sais, il y a une imposition quand même de respecter, d'utiliser leurs produits. Donc, à partir de là, après, on développe.
OK.
Mais c'est de définir ces barèmes-là, puis après... de partir.
De voir les ressources que vous avez, de qu'est-ce que vous avez disponible, puis on laisse aller la créativité au travers de tout ça. OK?
Je dirais la même chose pour les fragrances, pour les cires aussi, parce que dans mes valeurs d'entreprise, c'est important pour moi que les fragrances soient naturelles, soient pas... tu sais, qu'il n'y a pas des ingrédients toxiques, chimiques qui donnent mal à la tête. Fait que pour moi, c'est vraiment important. Fait que c'est ça aussi que je me limite à des fragrances qui sont plus naturelles. Puis aussi, au niveau de la cire, c'est ça que je disais tantôt par rapport à durable. Dans le fond, c'est que le soya, c'est la cause numéro un de la déforestation, mais c'est pas tout le soya qui cause la déforestation.
OK.
Donc, je me suis assurée de travailler avec un fournisseur qui est issu d'une culture durable dans la façon dont ils réutilisent leur terre au lieu d'en défricher d'autres.
OK.
Puis ça, pour moi, c'est vraiment ça qui m'inspire aussi dans mes productions, mettons.
Fait que autant que, tu sais, on laisse libre sa créativité, mais il faut prendre en considération que malgré tout...
On a des valeurs.
On a des valeurs, puis...
Valeurs éthiques.
Okay, oui. Puis justement, on ne peut pas faire autre que les fournisseurs et tout ça, que les produits qu'on veut mettre de l'avant et tout ça.
Okay.
Puis justement, trouver ces fournisseurs-là qui, des fois, sont un petit peu plus, dans un créneau précis? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait bien en tant qu'entrepreneur? Est-ce qu'on se dit, à quel point que je veux mettre en avant de mes valeurs versus ma rentabilité? Parce que, veux pas, malheureusement, le bottom line, ça reste toujours l'argent. Si on n'est pas viable, c'est difficile. Comment qu'on gère ça, justement, les fournisseurs, nos valeurs versus la rentabilité?
Dans mon cas, par exemple, j'ai quitté Montréal pour venir en région. À Saint-Mathieu, je veux dire, t'as pas un camion qui débarque puis qui te livre comme un grossiste ou comme à Montréal où t'appelles Berry, marché Jean Talon, où tu débarques avec tous les légumes que t'as besoin, tu passes des commandes chez Hector, l'arrivée, il débarque. Puis il y a le démarchage qu'on a eu à Saint-Mathieu qui fait un peu notre force de vraiment, comme quand on est arrivé, d'aller voir tous les producteurs, productrices qui étaient autour de nous, de regarder tous les agriculteurs qui faisaient quoi, puis d'avoir une relation avec eux, puis un dialogue. Puis ça, après, ça a créé notre force, tu sais. Donc, le fait qu'on n'ait pas cette facilité-là de se faire livrer ou XY ou d'avoir un approvisionnement, ça a fait qu'on a tissé des liens avec nos producteurs, puis maintenant, on a, tu sais, j'ai une force, comme je m'assois en janvier avec les agriculteurs et agricultrices pour sélectionner, par exemple, des semences, pour leur dire, tu sais, on va planter ça, on va regarder, on va faire des tests, etc. Quelque chose que j'aurais jamais fait à Montréal.
La proximité.
C'est sûr que ça crée ton unicité aussi, parce que j'imagine quand on va goûter tes plats, il y a des saveurs, et c'est vraiment ça qui relève par rapport à un autre connaissance.
Je vais les voir à la ferme, je leur dis, on va cueillir ça à tel niveau de maturité ou à telle chose. Fait que, par exemple, à la ferme Gagnon, je leur prends des fraises immatures, des fraises complètement vertes. Tu peux pas t'appeler un grossiste et lui dire, envoie-moi des fraises vertes. Mais c'est quelque chose que je peux faire avec la ferme Gagnon ou les maïs, là, en ce moment, à la ferme Millette à Pointe-du-Lac ou dans les Vieilles Forges, en fait, où j'ai des tout petits maïs avec le cœur tendre. C'est juste des maïs qui ont été récoltés bien à l'avance.
OK.
Donc, c'est ça, c'est vraiment un dialogue. Puis on arrive avec des produits qui sont littéralement uniques. Puis ça finalement crée notre force. On a eu des trucs qui ont été beaucoup plus complexes quand on a, par exemple, des standards de qualité en service ou qu'on veut avoir un litho, on veut avoir à la salle de bain, on veut pas du papier brun, on veut une petite serviette individuelle pour chaque personne. Côté buanderie, etc., on a eu de la difficulté. Fait que finalement, nous, on repartait tout le temps avec les sacs après le service pour faire le lavage à la maison.
Okay.
Puis revenir le lendemain, repasser les lithos. Tu sais, ça aurait été facile de mettre juste une napkin ou quelque chose de... Mais pour nous, avec ces standards-là, d'avoir quelque chose de plus durable, ça nécessitait un effort plus grand que je trouve qu'en ville, il y a plus une facilité. Donc... côté rural, côté urbain, c'est vraiment deux réalités.
Chacun a leurs forces et leurs faiblesses.
Ouais.
La rurale un petit peu plus convivial, un petit peu plus partenariat, vu qu'on a moins d'options, mais on travaille mieux avec eux.
Ouais, exact.
Mais moi, contrairement à toi, c'est pas tant la communication, mais beaucoup d'heures de recherche. Okay. C'est vraiment... c'est quand même intense parce que, tu sais, je veux dire, mettons, je pense à la cire. Si je cherche cire de soya en wholesale, en bulk, désolée les anglicismes, mais je cherche beaucoup, tous mes contenus sont en anglais, là. Fait que ça vient rapidement comme ça dans ma tête. Mais c'est ça, quand on cherche sur Internet, on va voir les premiers sortir cire de soya, mettons, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement toujours de la bonne cire de soya, de la bonne qualité, puis aussi, encore là, à respecter mes valeurs. Donc, je pense que ça a été long à faire. Ça a pris quand même une bonne année avant que je lance mon entreprise pour ces raisons-là. Mais une fois que tu les retrouves, ça, c'est vraiment le fun. Mais sinon, comment je fais pour pallier, tu sais, mettons, comme tu dis, rentabilité, ces choses-là. Je pense que quand je trouve des choses qui sont... quand j'arrive pas, en fait, à trouver quelque chose qui est à la hauteur des valeurs de mon entreprise, je fais juste comme abandonner ou mettre sur la glace le projet pour l'instant. Je peux prendre un exemple. J'avais l'intention de mettre des coupes mèches sur mon entreprise, mais c'est pas évident de trouver. Des coupes mèches, dans le fond, c'est que tu coupes la mèche de ton... normalement, tu es supposé couper ta mèche avant d'allumer ta bougie à chaque fois.
Okay.
C'est plus sécuritaire.
OK. On apprend.
Souvent, c'est écrit en dessous du pot de la bougie, mais pas grand monde trouve ça.
moi le premier.
Mais c'est ça. Mais bref, fait qu'on est, comme je voulais vendre ça comme un article complémentaire, mais après beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de recherche, j'ai jamais trouvé des compagnies qui étaient capables de me certifier que leurs ouvriers étaient bien traités. Okay. Puis ça fait partie de mes valeurs éthiques. Donc, au bout de la ligne, j'ai décidé de mettre le projet sur la glace parce que pour moi, c'est vraiment important que dans tout le système de processus, tout le monde est bien traité.
OK. Donc, c'est ça. Parfait. En fait, j'irai avec une prochaine question. J'aimerais ça savoir, en tant qu'entrepreneur, des fois, la gestion du temps, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, surtout en restauration, que c'est des horaires qui sont un peu différents que le 8 à 5. C'est quoi votre truc? C'est comment vous faites pour gérer votre temps, autant au niveau de la vie personnelle que la vie professionnelle?
la grande question.
Ouais, ben moi, sincèrement, dans mon cas, j'ai pas vraiment de vie personnelle. On est en démarrage, on est vraiment en train de bâtir quelque chose mais on est très conscient de ça. On est très conscient qu'il faut aller chercher un équilibre. Puis ça s'en vient. Mais comme je te dis, j'ai pas de journée de congé ou quoi que ce soit. Et toujours ça, je suis jamais chez moi. Okay. Je vais chez moi que pour dormir. Je me réveille, je pars à l'auberge. Je travaille, c'est vraiment... Mais en même temps, je veux dire, je me plains pas. J'adore ça. Puis on est en train vraiment de bâtir. Puis c'est très stimulant. Puis, mais non, j'ai pas de vie personnelle. Surtout là, en plus, avec l'été, on dirait que je l'ai même pas vu passer. On est déjà rendu...
En août.
C'est fou. Je veux dire, j'ai pu profiter de rien. Mais en même temps, j'ai profité dans un autre sens où que...
T'sais, on a vécu la passion. Et...
Exact, tu sais. Puis je le dis, moi, j'ai sincèrement pas l'impression de travailler, tu sais. Puis je fais juste ce que j'aime. Puis les personnes qui me côtoient à l'auberge, c'est ma famille aussi. C'est des gens qui deviennent les meilleurs amis. Puis voilà. Mais on est conscient
éventuellement, ça va venir.
Exactement, oui. Okay. Puis je veux dire, j'ai pas de femme, j'ai pas des enfants, en ce moment, c'est vraiment le projet sur lequel puis éventuellement, j'espère qu'un jour...
Comme tu as dit, ta famille, actuellement, c'est l'auberge.
Exact.
Ah, c'est cute. Ouais. Et pour toi?
Moi, au sens contraire, c'est un travail qui est très seul. Je veux pas, je suis sur le web, fait que c'est moi, mon ordi et moi. fait que je te dirais, j'ai pas tant non plus de limites de balance ou de règles de balance, mais tu sais, c'est sûr que je pense que être seul longtemps, j'ai avec mon conjoint qui est à la maison, là, mais à un moment donné, tu viens dans ta bulle, tu travailles. Je pense que quand que je sais que c'est le temps de vivre ma vie personnelle, c'est quand que je commence à me sentir un peu coucou parce que je suis tant seule. Fait que je suis comme bon, ça serait peut-être le temps de texter mes amis, de faire quelque chose.
Sortir un peu.
Ouais, sortir un peu de ma bulle. Fait que je te dirais que c'est un peu ça, mais j'ai pas encore de règles définies. Là, mettons, à 5 heures, c'est terminé. Le week-end, je travaille pas. Là, c'est pas ça qui se passe. Là, en démarrage, là.
En démarrage, c'est justement, on a du temps à donner pour commencer, pour mettre des bases solides, puis après ça. Ouais. C'est un sacrifice à donner.
Mais on a essayé, tu sais, mes associés puis moi, on s'est dit, OK, on se prend tous une journée qu'on ferme nos téléphones, nanana,
okay.
Et tout, puis ça a duré 2 semaines. Ça a littéralement duré 2 semaines, puis finalement, on a réalisé qu'on avait besoin de tout être là, dans un sens. Mais tu sais, on trouve, puis on a pris aussi des décisions, comme par exemple de fermer le mois de novembre au complet, puis de fermer le mois d'avril au complet.
Okay.
Donc, on va fermer 2 mois par année pour donner un break à tout le monde, pour pouvoir voyager, pouvoir
vivre un peu.
Ça, exactement. Je pense que deux mois, c'est beaucoup, c'est tout simplement.
Mm-hmm.
Puis, c'est sûr, maintenant, on est en démarrage, mais on a aussi la projection de... Maintenant, on est ouvert 7 jours sur 7, mais pour les restaurants gastronomiques, on aimerait juste ouvrir 4 jours.
OK.
4 jours sur 7 pour justement aller chercher cet équilibre-là.
OK.
Mais bon, je pense que par nécessité, c'est un gros coup à donner pour la première année. Puis ensuite de ça, une fois que la stabilité va arriver, ben, on va être capable de prendre des décisions pour avoir un équilibre. En tout cas, on est tous conscients de ça, donc c'est sûr que ça va être appliqué.
C'est bon. Dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir de vos entreprises?
C'est une grande question, ça. c'est sûr que, mettons, si on parle dans la prochaine année, j'aimerais ça être capable de sortir des nouvelles collections de produits autres pour pouvoir montrer que, justement, j'ai pas juste des bougies à offrir, mais j'ai vraiment beaucoup d'idées en lien avec l'écologie.
Okay.
Puis, ben, m'a sauté. Je pense que pour moi, c'est vraiment les médias sociaux qui font la différence pour mon entreprise, vu que c'est principalement web. Fait que je dirais une explosion sur les réseaux sociaux.
Parfait.
Ce serait agréable.
mon côté, c'est de continuer à aller chercher des gens passionnés qui se greffent au projet. Puis, c'est les gens qui modèlent l'avenir de l'auberge, dans le sens où chaque personne. Comme je disais, son carré de sang, mais chaque personne s'épanouit puis aime qu'est-ce qu'il fait. Puis il prend des mesures pour réaliser un peu son rêve. Puis je pense que l'auberge, c'est vraiment un berceau pour ça, un berceau d'épanouissement de chaque personne, que ce soit moi à travers la cuisine ou Étienne à travers la sommellerie, maître d'hôtel ou Nicolas avec la gestion, Florent avec le projet de la boutique. C'est de greffer des gens à ce projet-là pour qu'ils puissent réaliser qu'est-ce qu'ils ont le goût de réaliser et qu'est-ce qu'ils aiment faire. Donc, ce serait un peu ça. Là, en ce moment, si jamais je lance la balle, mais s'il y a un maraîcher qui veut, on va y faire sa place, ou peu importe. Puis si c'est un boulanger ou quelqu'un, ou peu importe, il y a les gens qui vont se greffer, qui vont vraiment définir l'avenir de l'auberge. Puis voilà. Moi, personnellement, j'ai rien besoin de plus. Là, je suis super épanoui, je trippe, c'est le fun.
Fait que l'appel est lancé pour des passionnés.
Ouais, des gens que tu sais.
Je fais du pouce sur ce que tu dis aussi, parce que, tu sais, comme j'ai l'impression que j'ai skippé cette étape-là, mais je trouve ça super beau ce que tu dis. Puis je trouve ça important. Tu sais, j'aimerais ça aussi, comme justement, tu sais, moi, mon audience, mes clients, entre guillemets, c'est du monde qui care, là, excuse-moi encore de l'anglicisme, mais c'est du monde que, pour qui ça importe l'écologie, pour qui ils sont autant passionnés que moi, j'ai l'impression que c'est ces gens-là qui achètent. Fait que quand je dis un boom sur les réseaux sociaux, c'est un boom de gens qui sont prêts à faire un changement pour l'écologie. Fait que je trouve que c'était bien dit comment tu l'avais dit.
Merci beaucoup. Donc Pamela Mireille de chez Freya, de Samy Benabeb de l'Auberge sous Saint-Mathieu-du-Parc. Et un grand merci à vous aussi, les auditeurs qui nous écoutent. Restez à l'affût pour les prochains épisodes d'Entrepreneuriat à l'aveugle, qui sortiront sous peu sur les plateformes Spotify, YouTube, Balado Québec et bien d'autres. Merci beaucoup. À la prochaine.
Merci.